Nous sommes dans la salle du trône du palais royal de la capitale de notre cher royaume. Ce début d'après-midi se situe 3 jours après la nuit de noces, et nous retrouvons ce bon roi client que vient rencontrer Gonzague, son fidèle valet.
Le valet Gonzague s'avance.
Bonjour, sire. Comme vous me l'aviez demandé, je viens vous avertir que l'invité que vous attendiez est arrivé à l'instant au château.
Le roi va répondre.
Ah, bien. Amenez-le ici, mon bon Gonzague, si vous voulez bien.
Tout de suite, sire.
Le valet Gonzague fait la révérence et s'éloigne.
Garde, balancez donc l'annonceur dans l'oubliette et qu'il y trépasse. Inutile qu'il commente tout ce qu'il se passe et en plus, sa voix m'agace.
Le garde s'avance. Le garde m'attrape par le col et m'entraîne vers le couloir avec lenteur et détermination.
Quelques instants plus tard, un homme étrange vêtu d'une toge claire et d'un long manteau à capuche dans le même ton pénétra dans la salle du trône et s'avança respectueusement vers le souverain.
Ah, vous voici enfin! Je dois dire qu'il était temps que nous nous rencontrions, hein. Votre exploit du mois dernier m'est bien parvenu, mais j'étais, disons, trop affairé par les préparatifs de mon mariage que pour vous recevoir dans l'immédiat, comprenez-vous, hein. En tout cas, c'était un très fier service rendu au pays, et croyez bien que vous en serez récompensé. Vous pouvez d'ailleurs d'ores et déjà vous considérer comme l'enchanteur officiel du royaume, mon bon... comment dois-je vous appeler déjà?
Je me nomme Archibald Berlu, votre Altesse, pour vous servir.
Ben ça tombe bien ça, parce que avant j'avais justement un tout petit service à vous demander. Oui, à God de Calculation, voyez-vous.
Comme il vous siera, sire. Sérieux stratagème, cela dit. Et en quoi consiste le contrat?
Oh, mais c'est très joli ça, mon bon Berlu. c'est au sujet de mon épouse, hein. Enfin, épouse si je puis dire, c'est bien là le problème. Il se trouve que j'avais oublié de lui confier avant nos épousailles que je suis magicien et...
Oui, j'ai en effet senti votre aura en arrivant. Mais même sans ça, j'ai très bien connu la pauvre Morgane et je connais donc vos origines.
Ah bon, oui, elle... Enfin, peu importe. Bref, mes pouvoirs magiques sont une nouveauté pour moi, vous savez. Ils se sont soudain mis à se déclencher depuis peu de temps et...
Et votre épouse craint pour sa sécurité, c'est cela?
Eh ben, écoutez, je suppose que ce serait beaucoup plus simple avec un petit flashback, vous ne croyez pas?
Je le dis toujours, sire, un petit flashback vaut mieux qu'un monologue interminable.
Ah oui, tout à fait. Alors bon, voilà. C'était il y a 3 jours, hein, pendant la nuit de noces.
Le lit est tout détruit à cause de sa chute. Heureusement que le matelas nous a amortis. Mais pourquoi ne m'as-tu jamais dit que tu es magicien, client?
C'est-à-dire que c'est la première fois que ça arrive, tout ça, hein. Bon, mon père m'avait prévenu, peu avant son trépas, que mes pouvoirs se manifesteraient bientôt. Mais bon, comme ça n'arrivait pas, je n'y pensais plus, hein. Et puis, je crois que tu seras ravi d'apprendre que cette petite distraction a été principalement due à ta rencontre, hein, ma choupinette, hein. C'est qu'en ta compagnie, j'avais d'autres choses à penser, tout ça, et... où t'es passé, Gertrude?
Et où était-elle?
Eh bien, je l'ai cherchée pendant 1 heure et je l'ai retrouvée enfermée dans un meuble de la chapelle du château. J'avais sans doute, sans le vouloir, déclenché un sort de téléportation aléatoire. Hein. Peut-être que de repenser au mariage et à Gertrude aura fait s'orienter la destination vers cet endroit. Je n'en savais rien. Vous savez, je m'y connais encore très peu, hein, en magie, moi.
Il faudra que je vous donne quelques leçons un jour prochain, sire. Mais pour l'instant, poursuivez, je vous prie. Une affaire à la fois.
Oh, eh bien Gertrude était...
Furieuse! Je suis furieuse! Comment as-tu pu me faire ça?
Mais ma pioupioute, je ne voulais pas, moi, et...
Je me suis retrouvée bloquée dans cette armoire, toute contorsionnée! Ça a fait ressurgir une autre terrible expérience que j'ai vécue étant enfant. Je jouais à cache-cache avec mon petit cousin et il m'a oubliée alors que je restais bloquée au grenier dans une valise où je m'étais cachée. La fermeture s'était grippée et il a fallu tout un week-end avant qu'on me retrouve.
Oh ma pioupioute, allez, viens faire un câlinou là, voilà. Ça va mieux, non?
Mais que fais-tu là, client, avec tes doigts sur mon front?
Rien du tout. Un petit massage, ma chérie, rien de plus.
Attends, tu... Depuis quand on fait des massages du front? Tu n'essayais quand même pas de m'ensorceler?
Mais puisque je suis magicien, j'essayais juste de voir si je ne pouvais pas te faire oublier tes traumatismes d'enfance. En tout cas, au moins les 17 que tu m'as confiés jusqu'ici, ça pourrait être bien, non?
Je vois. Surtout celui qui concerne mon odeur, hein. Tu ne la supportes plus, en vérité. Et de quel droit, de toute façon, hein. Même si ces souvenirs sont pénibles, ils font partie de ma vie et je ne serai pas la même personne sans eux. Ça veut dire que je ne te plais pas comme je suis.
Ah, tu vas chercher loin, là. Moi, je voulais juste être gentil, tout ça, tout ça.
Client, Je vais peut-être passer pour une ingrate ou une impulsive, mais tu dois comprendre qu'il est question de confiance entre nous, de passer toute notre vie ensemble. Comment pourrait-il en être ainsi si je dois craindre tes capacités ou risquer que tu contrôles mes pensées?
I got to apologize.
Je vais rentrer à Cartalante, client. Tiens, je te rends ma bague. Considère que notre mariage est annulé.
Quoi? Tu me quittes?
Oui et non, client. Je voudrais que tu me demandes à nouveau en mariage, mais il faudra avant que cette bague soit enchantée. Il faudra qu'elle me rende invulnérable à ta magie, j'y tiens. Par sécurité pour mon corps et pour mon esprit. Et il faudra qu'un autre magicien me donne confirmation que cette bague fonctionne. Sans cela, client, nous ne nous reverrons plus et... Je ne le dis pas de guider de cœur.
Excellent flashback, sire. Clair et concis.
Ah, merci, merci. Et donc, à ce moment de l'histoire, on en vient en vérité à l'instant où je vais vous demander non seulement d'être le mage témoin dont on vient de parler, mais...
Vous voudriez aussi que j'enchante la bague?
Certes, oui. Je crains que ce soit encore trop complexe à mon niveau, ce type de sort. Et puis le temps presse, hein, c'est que ma pioupioute me manque terriblement, voyez-vous.
Bien, sire, je comprends. Confiez-moi ce bijou, s'il vous plaît, ainsi que l'un de vos cheveux, si vous le voulez bien.
Ah bon? Tenez alors, hein. Voilà. Le cheveu, c'est pour une question de reconnaissance de la personne à l'origine de la magie à bloquer, ou un truc du genre?
Tout à fait. Cela dit, sire, comme je l'évoquais tout à l'heure, il faudrait que nous nous retrouvions pour que je vous enseigne à maîtriser votre magie. Autant que je le pourrais, en tout cas, car, même si vous semblez l'ignorer, je la ressens extrêmement puissante. Votre mère n'était pas une amatrice, loin de là.
Ah oui, ce ne sera pas la peine, hein, je pense. C'est que je me suis pas mal exercé ces deux derniers jours et je commence à bien comprendre le truc. Hein. C'est pas si difficile, finalement. On vise un truc par le regard ou la pensée, on visualise ce qu'on veut et hop, fastoche.
Ces deux derniers jours, vous dites? Ça n'aurait pas de rapport avec toutes ces explosions que j'entendais venant de l'horizon lointain durant tout ce temps et depuis chez moi?
Ah, si, mais voilà, bon, j'avais un petit peu de mal à contrôler mes flux au début, tout ça. Et j'ai de fait malencontreusement abîmé une aile du château et détruit plusieurs habitations en ville. Mais je me suis arrangé, hein, j'organise un banquet d'excuses demain midi et il y aura un super buffet à volonté.
Quelques heures plus tard, nous voici maintenant dans l'antre de Berlu. Il vivait alors dans la grotte où, souvenez-vous, le croque-mort Kevin avait pénétré pour découvrir un sombre grimoire. Après les très nombreuses années de formation qu'il avait suivies, Archibald Berlu avait récemment été consacré druide, notamment suite à un grand exploit qu'il avait réalisé quelques temps plus tôt. Cependant, comme sa formation avait exigé qu'il demeurât vivant en pleine nature, il avait pris le pli et restait donc dans la dite grotte, laquelle était finalement son lieu de vie, de travail et de méditation. Et bref, bien que très bon dans son domaine, notre ami le druide trentenaire se voyait en proie à bien des doutes concernant la requête royale reçue l'après-midi.
Le roi est bien le fils de Morgane, aucun doute. Le pauvre homme ne s'en rend pas compte, mais sa magie est d'une rare puissance, bien plus grande que la mienne. C'est comme... un prodige, un virtuose, composant des symphonies riches et complexes d'une seule traite quand tant d'autres travaillent des semaines pour achever un simple concerto. Il suffit à client d'imaginer ses actions pour qu'elles se produisent instantanément. Encore moi j'y arrive la plupart du temps, mais bon nombre de magiciens que je connais doivent parfois prendre plusieurs minutes à force de gestuelles et de formulations pour se mettre en condition mentale suffisante pour réussir un sort. C'est finalement peut-être moi qui aurais plus à apprendre du roi que l'inverse. Mais soit, revenons à cette bague. Comment procéder ? Un simple bouclier magique ne fonctionnera pas contre autant de puissance, et un ricochet risquerait de provoquer bon nombre de dégâts collatéraux. C'est trop compliqué. Je vais appeler mon maître.
Et à Berlu de se livrer ainsi à un appel télépathique, bien sûr.
Allô, comment ça va, mon petit disciple?
Bonjour, maître.
Hé, je savais que tu m'appellerais. Je suis en train de prendre mon souper, et les pâtes alphabet de ma soupe me l'ont prédit il y a quelques instants.
Votre clairvoyance vous honore, mon maître. J'aurais d'ailleurs besoin de vos conseils concernant une impasse dans laquelle je me trouve.
Longue et technique fut cette conversation, les deux mages échangeant leurs opinions et objections, consultant nombre de grimoires et... faisant aussi quelques canulars télépathiques à d'autres druides pour déconner un peu pendant une courte pause qu'ils s'accordèrent.
Allô, oui, pardon, je cherche un ami, est-ce qu'il serait pas près de vous? Vous pourriez l'appeler? Il se nomme Mandésérection, prénom Gérard. Chut!
Les deux hommes y passèrent la nuit, mais le vieux maître finit par retrouver un très ancien parchemin relatant une marche à suivre, dont le résultat semblait répondre aux attentes de Berlu.
« Archibald, contrer une magie plus puissante tu pourras. Pour cela, te faudra-t-il user d'un subterfuge. Construis une amulette contenant les cendres d'un objet magique puissant que tu auras brûlé pour le soumettre. Ce bijou à ton cou, moyennant la bonne équation et la forme spécifique du réceptacle, cela augmentera ton pouvoir de persuasion. Et ainsi, seulement, tu réussiras. »
Bien, merci maître.
Bon, je t'envoie le parchemin par hibou, mais fais-t'en une copie, mon petit, hein, je tiens à le récupérer quand même.
Bien, je ferai cela.
Je te laisse à présent, bonsoir.
Le hibou du vieux maître arriva à l'entrée de la grotte au milieu de la nuit. Berlu déposa l'animal sur un petit perchoir pour qu'il se recharge un peu. Après quoi, il examina le parchemin avec une grande attention à la lueur des bougies qui brûlaient dans sa caverne. Avec les moyens dont il disposait, notre ami le druide façonna patiemment le petit réceptacle voué à contenir les cendres de l'objet magique. Concernant ce dernier, il avait eu beaucoup de temps pour réfléchir, oui, pour réfléchir à quel objet chargé d'un terrifiant enchantement il allait sacrifier.
Certes, cela est un peu fou. Ça reviendrait à libérer une part de l'âme de ce démon. Mais c'est sans doute un bien moindre mal que de laisser un puissant roi magicien hors de contrôle. À long terme, sans quelqu'un d'immunisé pour le raisonner, qui pourrait prédire le sort que Client projettera pour son royaume, voire pour le monde, lorsqu'il aura réalisé la pleine étendue de ses pouvoirs. Je n'en sacrifierai qu'un seul feuillet, puis j'enterrerai ce livre à jamais. Ainsi, je pourrai être certain que nulle autre parcelle de cet esprit démoniaque ne ressurgira plus.
Berlu suivit les recommandations du parchemin et ne manqua pas de les recopier sur une page blanche à la fin des annexes de l'un de ses manuels scolaires qu'il avait sous la main pour éventuellement se la remémorer dans l'avenir. Ceci fait, il alla ouvrir le lourd coffre métallique dans lequel il avait enfermé un étrange manuscrit. Un livre grossièrement relié, sur la couverture duquel, en plus de son nom, Berlu avait écrit les mots « La porte ».
Tiens, ce chapitre retrace les lignes de code des fonctions de mémorisation, de communication et de motivation de ce monstre, sous le nom de regroupement Conviction. Cela semble idéal, ce sera donc cette page.
Tenant ensuite le feuillet au-dessus de l'une des bougies, le travailleur nocturne pouvait voir le parchemin lentement craqueler sous les caresses de la flamme, tandis que l'encre, d'un odieux vert sombre, crépitait et gémissait sous la chaleur, comme si elle tentait désespérément de se décoller de son support pour préserver son existence. Lorsque le feu fut bien pris, Berlu jeta le feuillet enflammé dans le petit chaudron dont il s'était servi plus tôt pour fondre une cuillère en étain et créer le réceptacle, et il y laissa brûler entièrement le document.
J'ai bien évidemment coupé mon détecteur de fumée avant pour ne pas que ça bipe.
Une fois les flammes éteintes, Berlu réunit les cendres et en remplit le petit cylindre qu'il referma ensuite avec une nouvelle coulée d'étain. Il concocta juste après cela la potion recommandée par le parchemin de son maître et à l'aide d'une plume, il se servit de celle-ci pour tracer sur la face avant de l'étrange bijou une rune ancienne qui signifiait « ordonner ». Le liquide moussa silencieusement au contact du métal, lequel, à l'origine pâle, s'assombrit doucement en ne manquant pas de dégager un faible halo mauvâtre. Et la rune était gravée, le pendentif de conviction était fabriqué. Qui le porterait pourrait dès lors donner bien des ordres contre nature, tous ceux en somme qu'aurait pu être capable de donner la créature dont une parcelle d'âme était à présent isolée à l'intérieur de la petite boîte en étain noir. Il fut ensuite plutôt simple pour Berlu d'enchanter le bijou de la reine. Le pendentif à son cou, le cheveu royal dans une main, il enveloppa d'un geste l'anneau d'un sort d'annulation qui empêcherait qu'agisse sur son porteur tout sortilège de client inférieur au niveau de puissance du feuillet calciné, soit tous vu le considérable écart du niveau de puissance en question. Et son travail accompli, sans même prendre le temps d'éteindre les bougies, Berlu s'effondra de fatigue sur sa paillasse alors que l'aube grimpait à l'horizon. Il l'ignorera toujours, mais les quelques microscopiques résidus de cendres qu'il avait sur les doigts contenaient suffisamment de molécules de l'étrange encre verte que pour le posséder un bref instant, lui, pauvre air exténué, sans plus de défense pour sentir venir l'incursion. Car si ses capacités magiques l'immunisaient contre la malveillance contenue dans le pendentif, notre bonhomme n'en était pas pour autant en état de lutter contre un contact direct. Endormi donc, et inconscient d'effectuer cet acte, Berlu se leva et ajouta un bref poème sur la feuille de notes dans les annexes de son livret, sous la dictée de l'esprit parasite qui le gouvernait momentanément. Cela fait, le possédé appela le hibou, lui glissa dans le bec le parchemin du vieux maître, et dans l'une des pattes de l'animal, il accrocha le carnet.
« Rentre chez ton maître,
Mais sur ta route, tu lâcheras ce livre là où il pourra être trouvé. Vol.
Éperlu se réveilla un peu avant midi. Il supputa que le hibou était bien dressé et s'en était retourné de lui-même avec le parchemin. Mais le druide ne repensa plus à son petit livre de cour, car dans l'ultime effort de l'entité intruse, alors qu'elle perdit son emprise sur lui, le souvenir lui en avait été ôté. Mais fidèle à sa promesse nocturne, notre ami emporta l'essentiel de ses affaires, enferma le grimoire maudit dans son coffre et quitta finalement la grotte dont il fit disparaître l'entrée derrière un violent éboulement, lequel fut provoqué par une décharge d'énergie magique. Et c'est ainsi, son sac sur les épaules et la bague en poche, que Berlu prit la route pour retourner au château du roi. Vu que cela nécessitait 8 heures de route, ce ne fut que le lendemain matin que le roi Client Ier, Berlu et une escorte armée partirent respectivement en carrosse et à cheval pour le duché de Cartalante vers le nord-est. Une fois arrivés, ils furent accueillis avec les honneurs et purent rapidement rencontrer la jeune Gertrude qui était rentrée vivre dans le manoir de son vieux père. La demoiselle fut touchée par le présent que lui fit le roi et le témoignage de Berlu, dont la haute réputation était déjà gage de fiabilité, la convainquit immédiatement.
Et j'en ai profité pour lui demander un autographe.
Et tous repartirent dans l'heure même pour le palais royal, rayonnant de bonheur. Et il ne fallut pas 2 jours ensuite pour qu'eut lieu le second mariage de Gertrude et Client, accompagné à nouveau d'un buffet et... Non, je pense que nous allons passer outre la cérémonie.
Nous avons conquis l'île.
Le couple royal ainsi reformé insista pour récompenser les grands services rendus par le druide Berlu. Pourtant, très modeste, ce dernier ne demanda pas plus qu'un nouveau logement et un léger défraiement. Le souverain lui fit attribuer une nouvelle grotte toute neuve choisie parmi celles des domaines royaux et insista pour que son hôte emportât une copieuse somme d'argent. Ce dernier l'accepta finalement de bon cœur et l'utilisa ensuite principalement pour acquérir une riche collection d'ouvrages et de grimoires en vue d'approfondir ses connaissances. Et avec ce qu'il restera d'argent, quelques années plus tard, il s'offrira le confort d'un rustique chalet perdu en forêt au bord d'une petite rivière.
J'en ferai mon école, et pour lui rendre hommage, je lui donnerai le nom de mon vieux maître, Proutelard.
Quelques années passèrent. 4 exactement. Le règne de Gertrude et Client se déroula sans grandes histoires. Les lois déjà en place étaient plutôt cohérentes et bien rodées, et très peu de réformes furent nécessaires. Du coup, le couple passait le plus clair de son temps à flâner dans le luxe et à voyager pour le plaisir. Oui, seul serait peut-être à signaler le décès du vieux et malportant duc de Cartalante, survenu entre-temps. Enfant unique, et donc seule héritière, Gertrude refusa cependant d'endosser le rôle de duchesse en plus de celui de reine. Oui, parce que bon, ça fait beaucoup de boulot tout ça, et loin d'elle étant l'envie de s'affairer d'à mi-temps demeurer dans sa région d'origine, et de faire la reine le reste du temps, c'est un petit peu compliqué tout ça. Hein. Aussi, elle préféra confier la gestion du duché à son petit cousin Grégor, qui fut ainsi nommé intendant de Cartalante. La souveraine, pour en revenir à elle, ne regretta jamais ce choix. Et à plus forte raison, lorsque, au terme des 4 années dont j'ai parlé, survint un événement qui la confronta d'autant plus à son envie de ne pas trop s'éloigner de son époux. Oui, Gertrude était enceinte, un enfant, un héritier royal, allait naître. Et 9 mois plus tard, sortait donc de l'œuf abdominal de la reine, la petite Migraine, princesse du royaume lointain sans lettres, à une époque qui n'est pas encore tout à fait le Moyen-Âge, mais plus vraiment l'Antiquité, et qui a un sol propice à la poussée des carottes. Et tout se passa pour le mieux pendant très longtemps, mais... oui, pourtant, peu après que la petite princesse eut atteint l'âge de 7 ans, un sombre drame, hélas, allait se produire.
Viens, petit écureuil.
Migraine, que fais-tu à courir dans les couloirs?
Il y a ce petit écureuil tout blanc qui est entré par la fenêtre de ma chambre, alors j'essaie de l'attraper. Allez, viens par ici.
Migraine, pas si près de l'escalier, tu vas... Non, je te tiens, recule, recule, tu... Maman ?
Maman ?
Eh oh, c'est quoi tout ce boucan pendant que je fais ma 2e sieste du matin ? Mais c'est scandaleux, et Gertrude ? Oh non, ma pioupioute !
Client courut auprès de son épouse agonisante. Il tenta machinalement, plusieurs fois de suite, de lui appliquer un sort de soin, mais cela, évidemment, ne fonctionna pas. Se rappelant soudain la bague enchantée, il tenta d'ôter rapidement le dit bijou du doigt de son épouse. Mais avec les années, l'anneau faisait comme partie du doigt de Gertrude, et Cliant dut tirer très fort jusqu'au craquement de l'articulation déboîtée par l'attraction pour réussir à le retirer. Cependant, Gertrude n'eut aucune réaction à cette dernière blessure, qui aurait logiquement dû la faire hurler de douleur. Et au pauvre roi, oui, de ne pouvoir alors que constater que l'amour de sa vie était passé à trépas, qu'il était arrivé trop tard, et que, contre cela, sa magie ne pouvait rien. Jamais Cliant ne se remit de cette perte, et il demeura, durant le reste de son premier règne, en proie à l'ennui et à la mélancolie. La petite Migraine, quant à elle, témoin de la totalité de la scène traumatisante et délaissée par son père morfondu, chercha ailleurs quelque réconfort. Elle s'isola de longues journées au fil des ans pour lire et relire les mémoires et les plans de guerre légués par feu son grand-père, Gaston XVII, à la bibliothèque du château. Et lentement, en elle, crurent ainsi ses influences belliqueuses, ceci jusqu'aux événements que vous connaissez bien, mes chers auditeurs. Les buffets à volonté ne font pas le bonheur.